merci d'être venu pour cette avant-première édition du Festival des mondes de l'imaginaire sur Montrouge. Nous allons explorer l'imaginaire sous toutes ses formes, comme le physique, avec quatre invités prestigieux. Gabriel Katz, dont ce n'est pas le vrai nom.
C'est ça, vraiment. C'est un pseudo.
C'est un vrai pseudo.
Ce n'est pas le vrai nom, et qui nous a promis, pour cet après-midi, vous nous révéler son prénom. Stéphane Marsan.
Moi, je le connais.
Ah, ça, on ne sait pas. À qui l'on doit un profond bouleversement du paysage éditorial et donc moral et politique français et international.
Et galactique.
C'est, au moins.
Bah, oui.
Je suis un pseudo de Gabriel.
Laurent Genefort, explorateur des mondes de l'imaginaire, de space opéra. C'est notre aîné à tous. Depuis que je le connais, il a toujours été notre aîné. Je suppose que tu l'as encore.
Ah, c'est pas faux.
Je suis né à 45 ans.
C'est un peu ça. Patrick Mallet, pareil, scénariste,
on va se partager tout
illustrateur, dessinateur qui connaît très 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 bien nos amis auteurs des années 20, 30, la femme absolue de Clark Ashton Smith. Je pense que s'il y a des caractéristiques, toi Laurent, je sais pas trop, qui vous réunissent, c'est que...
la SF ancienne, ça me branche aussi.
La SF ancienne,
ouais.
Il y a des choses extraordinaires. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une conférence sur la SF ancienne, française? Est-ce que vous voulez qu'on parle de la SF française des années 30?
Moi j'aime beaucoup, mais je connais rien. Hein.
C'est
capable de citer des...
Moi, j'ai découvert un texte grâce à Laurent et à Stéphane qui est fabuleux.
Ah,
oui.
Ah, c'est toi qui l'as acheté. C'est ce que j'allais dire.
Ça s'appelle La guerre des mouches de Jacques Spitz.
Ah, Jacques Spitz. Mais c'est moi qui
l'ai... Franchement, je vous invite à découvrir ce texte.
C'est moi qui te l'ai conseillé, non?
Non, je crois que je connais ça. Oh. Qui est juste génial, ça raconte l'histoire des mouches qui déclarent la guerre à l'humanité. Mouches. Bon. Alors...
L'œil du purgatoire.
Ah, c'est
encore meilleur. Oui.
Non, je disais, il y a une caractéristique commune à ces quatre personnes-là, c'est que, pour toi d'ailleurs, Laurent, je ne sais pas trop en fait, tu vas nous dire, mais, oui, au niveau de beauté, ouais. C'est que vous êtes tous des joueurs, vous avez tous joué, à un moment donné, votre vie, non ?
C'est pas une qualité.
C'est pas une qualité, pourquoi ?
Parce qu'on en a même conçu et écrit.
Ah non, j'ai pas conçu et écrit.
Vous pouvez parler dans le micro, monsieur Gabriel, monsieur Stéphane.
Non, je demandais si... parce qu'on en a conçu et écrit des jeux, ou travaillé sur des jeux, toi, dans le jeu vidéo.
Alors voilà, moi, ces jeux vidéo, j'ai jamais été rôliste. Pourtant, j'ai assisté aux premiers, dans les MJC, les premiers clubs de jeux de rôle, dans les années 80. Mais j'ai pas...
Je croyais que t'allais dire dans les années 30.
Mais moi plutôt,
j'ai connu Patrick il y a une bonne quinzaine d'années quand on travaillait dans le jeu de rôle ensemble.
Ouais, on se revoit pour la première fois depuis 15 ans là.
Et tu n'as pas changé.
Et toi non plus.
voilà. Mais qu'est-ce que tu fous là toi, Kat?
C'est une très bonne question en fait, je me le demande. Je pose toujours cette question en conférence. Donc voilà. Non, moi je suis un rôliste, mais pour le coup, je suis un rôliste un peu sous le manteau. Hein. J'ai créé mes jeux pour moi, tout à fait égoïstement, et c'est devenu des bouquins.
Ah!
Oui, le temps de mémoire.
Comment est-ce qu'on passe des.
C'est un peu plus bête à l'origine, mais ça devient ça.
Oui, et ça se ressent dans la lecture des livres. Et je le dis en bien. Parce que parfois ça se ressent, mais en mal. Alors voilà, c'est vrai, la thématique des livres et des jeux, elle est liée depuis probablement même avant l'invention des jeux de rôle, c'était en 1974. Même si c'est vrai que depuis 1974, on a des jeux, en dragon en l'occurrence, qui ont donné naissance à des livres. Ça peut être des livres inspirés par les mondes de dragon comme les Royaumes oubliés, ou Dragonlance, qui ont été brillamment publiés autrefois par les éditions Fleuve Noir avant d'être brillamment republiés par les éditions Bragelonne. Et ces livres et ces jeux ont donné naissance également, ont accompagné le parcours littéraire d'auteurs comme Gabriel, qui ont influencé leur travail. Alors, il y a des livres qui en souffrent, j'allais dire, et d'autres plutôt qui en bénéficient. Je trouve que c'est le cas avec ton travail, Gabriel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la manière dont les jeux de rôle, et notamment les parties que tu as improvisées avec tes amis, que tu as menées avec tes amis, ont influencé ton travail de romancier?
Comment ça a influencé? Je ne sais pas très bien. À la base, en fait, j'écrivais des bouquins pour les autres, donc j'étais nègre, Et je faisais du scénario, et je fais toujours du scénario d'ailleurs. Et je faisais des jeux de rôle pour moi. Et je suis jamais parti du principe qu'il fallait interagir finalement entre les deux mondes et faire quelque chose qui mixe. Et on m'a tapé sur la tête pendant 10 ans, je crois, en me disant « Mais putain, tes campagnes sont bien écrites. » Et bon, alors j'ai honte de dire, je ne lis pas de fantasy, je n'ai jamais lu de fantasy, et donc je ne connais pas du tout ce domaine. Et je me suis dit, si j'écris de la fantasy, je me ridiculise.
Béant ne s'en va.
Béant ne s'en va tout de suite, voilà.
Il ne faut pas rester dans la même salle.
Et au final, en fait, il y a eu un glissement. Je me suis dit, je vais essayer de faire un bouquin de fantasy avec un pseudo comme ça, si je me ridiculise, je me cache. Et en fait, ça a marché, et je suis toujours là.
Stéphane. Personne, est-ce que vous savez que Stéphane était... Attendez, moi j'ai un
trésor. Il a ôté le pseudo.
Ah ouais, non, mais
moi j'ai un trésor à la maison, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai un roman de ce monsieur.
Oh, Stéphane, je voulais qu'on en parle après en privé.
Parle-nous de ton activité de romancier.
Bah, mon activité de romancier, c'est quand j'ai créé les éditions de Nemo, c'est qu'il nous manquait un bouquin pour la semaine prochaine et qu'il fallait que quelqu'un s'y colle. Et que ça tombait bien à ce moment-là, on sortait dans la maison jumelle qui faisait du jeu de rôle, Multisim, un jeu de rôle qui s'appelait Guild, dont j'étais co-auteur. Et du coup, assez naturellement, on m'a dit bah, « tu ne veux pas faire un roman Guild pour accompagner la sortie du jeu ?» Ce qui est ce dont il a résulté 6 très mauvais romans, qui sont heureusement plus disponibles.
Moi, j'en ai 3.
et donc, tu ne te sépareras pas.
Justement, il m'en manque 3, en fait.
Et je pense que c'est un assez bon exemple de exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire de roman quand on n'est pas romancier. Et surtout pas quand on est co-auteur, enfin faire un roman sur le jeu de rôle dont on est co-auteur. Pourquoi ? Parce que je pense que l'une des choses qui définit un roman, c'est, enfin dans un univers imaginaire, c'est la seule histoire qui vaille vraiment la peine de donner un roman dans cet univers. C'est-à-dire que pour un mec comme Tolkien, il y a 4000 ans d'histoire, il choisit un moment pour raconter son histoire. C'est ça le plus important. C'est ça qui fera la bonne histoire. Et un univers de jeu, c'est exactement l'inverse. C'est une matrice pour inventer le plus d'histoires possible. Et toutes ces histoires, elles vont trouver leur valeur et trouver leur pertinence et leur justification dans justement la façon dont elles vont être jouées. Et ce que je trouve très... Et moi, j'ignorais que donc, des mémoires s'originaient dans une activité de jeu. Et en effet, je suis d'accord avec toi, David, c'est super intéressant parce que on voit typiquement le démarrage avec 3 types, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas où ils sont, etc. Et ça sent le Seigneur du Anneau. Mais c'est superbement utilisé narrativement dans le roman pour partir de ces prémices-là. Alors que la grande difficulté d'écrire des romans, et puis donc chez Nemo, j'ai publié heureusement des romans meilleurs que les miens, liés à des univers de jeux de rôle, des films, etc. C'est justement d'arriver à où Raymond Feist, dès ses premiers romans, remercie dans les dédicaces les copains du vendredi soir qui étaient en fait son équipe de jeux de rôle, etc. etc. C'est d'arriver à s'arracher à cette espèce de multiplicité qui définit l'univers de jeux de rôle pour se dire mais c'est quoi vraiment le truc qui vaut le coup d'être raconté parce qu'un roman c'est pas une encyclopédie. Et ni un guide de routard. Et deuxièmement, d'arriver à s'arracher à l'expérience individuelle des joueurs qui animent cet univers pour en faire des personnages qui sont compréhensibles, saisissables, attachants pour tous les gens qui vont lire leur nom. Parce que le problème de, typiquement du défi qu'on t'a lancé, tes campagnes sont super maintenant à écrire un roman, c'est de transposer ou de s'échapper de ce qui avait été vécu à la table entre copains pour passer à des personnages à part entière qui ne sont pas les copains et qui ne sont pas ceux de la table.
Ça me fait penser des joueurs quand sort le livre.
Ça me fait penser un peu à un truc Stéphane, c'est comme quand une personne voit dans sa vie et on lui dit si tu as une vie absolument incroyable, ça ferait un roman formidable, tu devrais écrire ta vie, ça ferait un roman génial. Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ça, je trouve que ça fait rarement des romans formidables, justement.
Alors c'est une question de métier. Ça, c'est une question de métier.
Ça, c'est un mec qui parle.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on prend un mec qui a une vie extraordinaire. Généralement, il se met à sa table et il se dit « J'écris ma vie extraordinaire ». Il pond une merde infernale qui est invendable. Et à ce moment-là, on prend un professionnel qui est là pour ça, qui a la notion du public, du calibre du livre, etc., etc., et qui lui fait un livre qui ressemble à quelque chose. Donc, normalement, ça marche à tous les coups. Hein. C'est
alors, une question de technique. Donne-nous un exemple concret, c'est-à-dire que tu...
C'est pas possible.
Ah bah, pas te croire.
Je suis comme un médecin en fait, je signe des clauses de confidentialité, je lis les gens pour qui je travaille.
C'est pas les tiens.
Ah bah les miens.
En l'occurrence, donc, c'est pas la personne qui a écrit son histoire, justement.
Non, elle n'écrit pas son histoire. Généralement, elle défend son histoire à la télé, une fois que le livre est écrit.
Non, mais d'accord, mais on rejoint quand même ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une histoire, une vie absolument fascinante pour, en l'écrivant soi-même, faire un roman fascinant.
En l'écrivant soi-même, non. Par contre, on est un tout. Ça ne me plaît pas. La négligence, si on rentre là-dedans, on va.
Laurent, ton point de vue sur la chose.
Sur quelle chose?
Ce qui fait
sur un roman
par rapport à l'histoire. Est-ce que tu crois qu'on peut adapter facilement un bon scénario de jeu de rôle, ou si on a fait une bonne campagne de jeu de rôle, est-ce que ça peut donner un bon roman?
Aucune. Alors, j'ai pas été jamais confronté à ça, en fait. Quand j'écris un roman, je pars souvent de l'univers. Donc, on m'a déjà proposé mais j'ai été toujours refusé parce que je préfère partir de mes univers moi, parce que c'est souvent le truc le plus intéressant. Alors, si on me retire le truc, à peu près le seul truc qui vaut qu'on achète mes bouquins, il ne restera plus grand chose. Donc je préfère partir de mes propres. Pour moi, en fait, mes personnages et mes situations, elles émergent des conditions initiales que je mets en place. Si les conditions initiales, elles ont été créées par quelqu'un d'autre, la création se fait mal chez moi. Je suis un peu. C'est ma façon de fonctionner qui n'est pas forcément. Je ne suis pas très efficace en création collective à cause de ça. Parce que j'ai besoin. Pour moi, j'ai un rapport totalitaire à la création et pas démocratique du tout. Pour moi, la création ne se négocie pas, elle s'impose. Parce que c'est la meilleure chose à faire, pas parce que faut plaire ou faut respecter des telles ou telles règles préétablies.
On ne veut pas faire de télé, donc.
Hein ?
Pas que tu fasses de télé.
Si, si, mais ce sera très mauvais. Mais
non,
je prendrai le chèque quand même.
C'est très, très, très contraire.
Non, mais je ne suis pas contre. J'ai déjà travaillé pour le cinéma, ça s'est bien passé. J'ai déjà. Pardon, j'ai déjà travaillé pour la BD, ça s'est bien passé, mais c'est pas le truc. Effectivement, comme tu dis, j'ai suffisamment de métier pour avoir une technique minimum qui fait que ce que je vais produire est éditable. Mais pour moi, ça fait pas les meilleures choses. En ce qui me concerne, hein, je généralise pas. Moi, ma façon de fonctionner, elle est plutôt, je pars de l'univers, donc je pars un peu du terreau, et puis je regarde ce qui pousse, alors qu'il y en a, voilà, ils sèment les graines et tout, et ce qu'ils font est magnifique. Moi, c'est pas le cas.
Moi, j'ai un rapport à l'adaptation. Je suis auteur de bande dessinée, et ça, j'ai au début de ma carrière, j'ai beaucoup fait d'adaptation. J'ai pris par exemple la vie de Giacomo Casanova, j'ai pris une partie de sa vie que j'ai adaptée en bande dessinée, j'ai adapté deux romans de Vatek de William Beckford et puis une nouvelle de Charles Nodier Smara, et tous ces trucs là je les ai vraiment fait au début parce que j'avais besoin d'un espèce de filet en tant que scénariste, j'avais besoin d'une histoire entre guillemets déjà écrite par quelqu'un qui me permette d'aller dedans un petit peu, de faire une adaptation, donc de changer quelques trucs, d'adapter pour un autre médium, la bande dessinée, passer du livre au dessin. Donc ça, c'était quelque chose qui demande du boulot, mais pas trop considérable. Et à côté de ça, ça me permettait de me consacrer sur vraiment l'aspect bande dessinée, mettre en image, storyboard, cadrage, dessin, mise en couleur, recherche de personnages, tout ce que vous voulez. Et donc c'est vrai que moi l'adaptation, alors j'en fais un peu moins parce que avec les années maintenant je suis un peu rodé, j'arrive à écrire mes propres histoires, mais au début c'était quelque chose d'un peu nécessaire pour arriver à produire un album. À l'époque ça me paraissait comme quelque chose d'assez considérable. Et en gros voilà, s'il y avait un côté, une histoire avec un filet parce que déjà écrite, voilà, je me concentrais sur le reste et c'était très bien comme ça.
Là, j'aimerais savoir une chose, Gaël Février, tu es un peu un contre-exemple. Tu as adapté toi-même en roman, c'est pas l'adaptation, tu as écrit des romans à partir en t'inspirant d'un univers de jeu de rôle que tu avais toi-même inventé. Mais pour quelle raison, Stéphane, je pense que tu ne démentiras pas, mais j'ai lu énormément moi, de romans adaptés, des tie-ins. De jeux de rôle ou autre univers, je les lis un peu comme ça parce que j'ai envie de prolonger mon aventure dans un univers donné. je ne garde pas le souvenir d'un seul, je peux me tromper, hein, mais je n'ai pas comme ça en tête un seul bon roman. Alors, est-ce qu'il est possible, et là, l'édition Brajlo, vous êtes directement concerné, est-ce qu'il est possible de faire un bon roman à partir, par exemple, d'un jeu vidéo?
Moi, j'ai un exemple, c'est Assassin's Creed. Mais Assassin's Creed, pourquoi? Un, parce que ils ont fait appel à un auteur de roman historique qui écrit son pseudo, les voix Boyden, ils sont dedans, c'est Anton Gill, et bon, maintenant ils vendent 300 000 exemplaires sous le nom de Boyden, donc il ne fera plus jamais du Anton Gill. Mais donc, c'était un. Voilà, c'est un auteur de roman historique. Assassin's Creed est un peu particulier parce que est-ce que c'est un univers imaginaire ou est-ce que c'est du roman historique, enfin, ou d'un jeu, hein, enfin, c'est un contexte historique. Bon. Donc ça veut dire que la problématique qu'évoquait Laurent, est-ce que ce type a eu vraiment à... Est-ce que, dans quelle mesure il a été contraint, comme tu disais, par l'univers imaginaire d'Assassin's Creed, ou simplement on lui a dit, voilà, Florence en 1500, vous voyez comment c'est, bah, vous allez raconter une aventure dedans. Quoi. Et au fait, il y a un voyage, il y a un truc virtuel, mais c'est pas... La deuxième chose, c'est que ces romans sont pas mal, enfin certains d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas des novélisations. Et donc en fait, il a eu carte blanche, parce que la gestion de l'univers Assassin's Creed par Ubisoft, dans toutes ses déclinaisons, est assez, assez enfin, très intelligente et très bien menée, très cohérente. Et donc il a eu la possibilité, de, finalement plus que la plupart des gens, dans ce genre de contexte, de raconter un peu son histoire à lui. Alors, hyper validé, hyper encadré, évidemment. Moi, j'ai le sentiment... Je retournerai ta question en me demandant si c'est vraiment l'enjeu. Je veux dire par là, dans la mesure où un roman, comme tu dis, tie-in, donc un roman dérivé, quoi, une histoire dérivée d'un univers de jeu, ou d'un, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de rôle, etc., s'en veut la prolongation et l'illustration, de facto, il y a quand même déjà pas mal d'éléments qui font que ça ne peut pas avoir le génie avec un petit G, hein, la personnalité, l'individualité, la créativité d'un roman tout court, si je puis dire. Bon. C'est-à-dire que la mission, enfin, on connaît très bien des gens qui sont d'excellents mercenaires, Chris Golden, etc.
Hamilton aussi.
Voilà, Kevin Janderson, des gens qui ont fait des. Nancy Holder qui ont fait des tie-ins de Buffy jusqu'à
d'excellents auteurs par ailleurs, c'est vrai qu'ils se sont prêtés au jeu d'écrire des romans Ravenloft, des Star Wars, des Star Trek, des
C'est de très bons mercenaires, mais ils n'ont jamais eu, en faisant ça, l'ambition de faire autre chose qu'une illustration, comme un scénario de jeu de rôle est une exemplification de l'univers de jeu de rôle ou du jeu de base, tu vois. Donc j'ai envie de dire, sans tant pis pour le mauvais jeu de mots, c'est que les dés sont pipés, en fait, dès le départ. C'est pas ce qu'on leur demande de faire. Et s'ils essayent de le faire, en général, ça merde, mais pour l'autre raison, c'est qu'on se dit, ben bon, c'est pas exactement l'univers du jeu, ou c'est pas son ambiance. En gros, qu'est-ce qu'il est allé faire, ça rentre pas dans les cases. Donc, et d'ailleurs, j'ajouterais à ça, moi, sur l'univers Donjons et Dragons, enfin, les univers liés à Donjons et Dragons, il y a quand même un exemple saillant qui est l'elfe noir de Salvatore. Pourquoi ? C'est un roman qui évoque ce livre. Mais, en fait, on ne dit pas. Enfin, ce n'est pas des romans royaumes oubliés, c'est l'elfe noir.
C'est un tour de triste.
Voilà, c'est qu'il a créé un personnage, et c'est ce personnage que les gens adorent, lu et aimé par des gens qui n'ont absolument rien à foutre, ni des royaumes oubliés, ni de Donjons et Dragons. Donc, je pense qu'il est sorti. Bah, rien que ses ventes, enfin, les ventes au fleuve, tu les connaissais mieux que moi, et les ventes chez nous, ça sort du cadre. Quoi. Bon. Donc là, je trouve qu'il y a quand même un cas un peu particulier qui est assez intéressant, d'un type qui ne s'est pas contenté, enfin, tout en remplissant sa mission, voilà, il a joué une carte qui est c'est le personnage qui va tromper le qui va se superposer au cadre qu'on m'a donné, et c'est ça que les gens vont suivre. C'est peut-être une piste.
Non. Est-ce qu'il est possible pour un auteur, Laurent, tu semblais dire non, mais est-ce que si un univers te plaît, on te proposerait aujourd'hui d'écrire à ta manière un roman Star Wars, est-ce que ça t'intéresserait? Si tu pouvais faire, si on te donnait carte blanche absolue, on dit, bah, tu fais ce que tu veux, tu pioches dedans.
Une version porno éventuellement, mais non, pas spécialement. À la rigueur, en plus Star Wars, c'est quelque chose c'est une espèce de grand aspirateur de la culture SF, donc il y a à peu près on peut à peu près tout faire dedans, mais en même temps c'est une matrice qui est devenue tellement large que c'est pas intéressant en soi. Ce serait peut-être plus intéressant quelque chose de plus spécifique que Star Wars, qui est devenu une sorte de grand foutoir, enfin c'est pas un foutoir au sens c'est une grande auberge espagnole en réalité. Donc c'est Star Wars, non, mais un autre univers, bah ouais, non, je pense que j'aurais quand même un peu de mal. Mais quand je prends, c'est une question de talent, en réalité, au bout du bout. Quand on a demandé à Thomas Dij de faire une novélisation du Prisonnier, il a fait un bouquin qui est formidable, qui est un grand roman SF, qui était une sorte de prisonnier un peu bizarre, où il avait twisté le truc. Ah ben, si on prend des auteurs très personnels, ils sont capables de faire, de s'approprier réellement un thème ou un univers. Ouais, ça peut faire quelque chose de vraiment hors norme. Mais voilà, ça suppose. Aujourd'hui, est-ce que ce serait possible ? Il serait pas validé. Il serait sans doute pas validé parce que son personnage est un peu différent de celui du prisonnier de McGowan. Voilà, c'est un peu différent. C'est presque une sorte de version quasi alternative qui rend le truc encore plus intéressant. Maintenant, voilà, est-ce que non, dans les trucs de licence et tout, c'est des logiques qui ne paraissent pas compatibles avec ce genre de création. Mais encore une fois, je peux me tromper. Hein,
Non, moi, par exemple, dans Doctor Who, Neil Gaiman a fait un épisode. Donc, effectivement, là, tu as un auteur avec un univers qui, tout d'un coup, se raccroche à quelque chose de très, de plus large, un peu fourre-tout aussi, mais de son épisode sort du lot parce qu'on retrouve ses thématiques, son style, en fait. Donc, effectivement, si l'auteur a une personnalité, bon, ben voilà, je pense que ça. Ça vaut vraiment la peine. Et
c'est très très différent. La série télé, c'est hyper différent. Tu prends une série que t'aimes bien, tu t'insères dans la série, si t'es un scénariste de qualité, tu vas y arriver. Mm-hmm. Alors que reprendre l'univers de La Guerre des Étoiles, par exemple, c'est un truc qui est atrocement frustrant. C'est-à-dire que tu dis, voilà, je vais récupérer l'imaginaire de quelqu'un, le bestiaire de quelqu'un, les fantasmes de quelqu'un, et je vais y coller ma pauvre petite histoire. C'est super frustrant.
Moi, au contraire, enfin... Ma réponse à ta question, David, ça aurait aidé. Moi, j'accepterais pour le défi. Après, effectivement, on peut se planter, on peut foirer, mais je trouverais absolument génial de me dire « Ok, j'ai carte blanche sur Star Wars, c'est du J.J. Abrams, parce que c'est un rêve de gosse, quoi. » Donc, moi, j'y vais à pieds joints, et après, bon, advienne que pourra, quoi. Mm. Mais je comprends tout à fait le côté, effectivement, c'est tellement large... Oui, voilà, probablement que je ne sortirai pas du lot, mais en tout cas, se frotter à se dire, tiens, et si j'inventais une histoire où il se passait, enfin, moi j'adorerais faire ça.
Star Wars, j'ai plus l'impression que tellement ce soit vraiment l'imaginaire de quelqu'un, parce que George Lucas, il y a un peu loin, c'est vraiment tout le monde, c'est mélangé. Il y a une sorte d'inconscient collectif.
Ça reste un truc extrêmement modifié.
Je trouve que ça fait un peu bien l'espagnol, là.
Oui et non, c'est super codifié. C'est-à-dire, tu peux pas sortir des codes de Star Wars si tu fais du Star Wars, parce que justement tu fais un truc qui est censé.
Je suis pas sûr.
C'est complètement calibré.
Je suis pas sûr.
C'est un peu comme écrire la fantasy par rapport à écrire un roman historique. Un roman historique, j'adore, je suis un passionné d'histoire, mais c'est hyper réducteur parce que tu calais sur l'histoire. La fantasy, justement, tu te tricotes ton monde finalement.
Alors que tu peux
Star
vraiment
Wars, tu récupères l'histoire.
Je sais pas, attends, je me demande là, ça rejoint ce que tu dis sur le roman historique ou le roman fantasy. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une véritable hiérarchie, c'est-à-dire on peut pas dire que, enfin, je voudrais quand même dire qu'un roman, un Taline, n'est pas fatalement moins bon que le jeu de rôle quand il est dérivé. Qu'un jeu de rôle est nécessairement moins bon qu'un roman.
Il y a pas de tout.
Stéphane publie des romans de Mathieu Gaboury qui ont souvent été adaptés en jeu de rôle, et Mathieu a lui-même beaucoup travaillé dans le jeu de rôle. J'ai pas l'impression que les jeux de rôle aient souffert soient moins bons en tant que jeu de rôle que les romans, ou que les romans soient tout à coup bidon parce qu'il y a des univers de jeu de rôle.
Par plus de plaisir d'écriture que de qualité, en fait.
Le cas de Mathieu est particulier et très intéressant pour bien de raisons. Déjà dans l'anecdote d'origine, c'est-à-dire qu'on décide de créer donc les éditions de Nemos, et donc je cherche au départ, donc on est en 95, à publier des romans liés aux univers de jeux de rôle qu'on avait publiés. Et je rencontre Mathieu Gaboury qui avait fait un jeu de rôle avec son compère Guillaume Vincent qui s'appelait Écrire, qui apparemment il y a un reboot prévu, un projet de réédition, ou de nouvelle édition, bref. Et il me dit, bah, j'aimerais bien te rencontrer pour produire un roman. Et il se trouve que moi, c'est un roman original, c'est pas lié à un jeu de rôle, et donc c'était Souffre-Jour qui est devenu ensuite L'Éclair musculaire, qui ensuite est devenu un jeu de rôle, mais dont les co-auteurs sont Mathieu et moi, c'est-à-dire, des gens qui ont participé, bien sûr, mais ça veut dire que Mathieu est le co-auteur du jeu de rôle qui est l'adaptation de son univers. Donc en fait, c'est qu'à moitié une adaptation, parce qu'on a rajouté des éléments qui n'étaient pas dans les romans au départ, dans le jeu de rôle, et ce qui fait que quand il a réécrit ensuite L'Écrépusculaire pour qu'on en fasse une édition intégrale, il a réinjecté les éléments nouveaux qui avaient été inventés pour le jeu de rôle dans cette nouvelle édition L'Écrépusculaire. Donc c'est toutes les particularités sont là, c'est-à-dire qu'il est le co-auteur d'une adaptation qui n'est pas tant une adaptation qu'une prolongation qui elle-même produit une réédition de roman qui reprend ses éléments, etc. etc. Mais je pense aussi, je prends l'exemple de Mathieu, je pense que c'est particulièrement intéressant aussi pour porter un éclairage sur un autre sujet que je suppose sera abordé demain dans d'autres conférences, qui est l'importance évidemment majeure des productions ludiques, jeux de rôle, jeux vidéo, sur cette génération d'auteurs d'imaginaire, en particulier fantasy et notamment francophone, dans les années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une liste de Gabory, Bevel, Klotzer, Colin, Calvo, Anne Gérard-Guerreau, alias Ange, et dans la BD, alors là, Péco, qui n'est pas passé par le jeu de rôle d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça a aussi un effet pervers, je pense, que nous qui lisons des manuscrits repérons encore, quasi systématiquement, tous les jours, c'est de rappeler aux gens qui décident d'écrire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas excellemment ce qu'a fait, qu'ils ne font pas ce que Cass a fait excellemment, c'est-à-dire qu'ils nourrissent de l'expérience du jeu de rôle et de la création d'univers et de la pratique du jeu, etc., décident de faire un roman, en fait, ne font pas un roman, font une encyclopédie. C'est-à-dire, font un source book, quoi. Commence par nous dire, alors, et cette expérience, toi éditeur, et nous tous éditeurs, on le fait dans toutes les conventions, tous les festivals. Bonjour, je peux vous parler de mon roman? Oui, bien sûr, alors quelle est l'histoire? Alors, c'est un univers où?
Oui, mais là, c'est adresser une critique à ce que fait Laurent, parce que Laurent dit lui-même qu'il ne parle pas de personnage, il parle de l'univers. Ça n'a pas empêché des gens comme Laurent, comme Stéphane Wu, ses proches, d'avoir fait des livres qui nous entraînent justement dans notre monde. Et c'est marrant de voir que tu as des livres de Laurent qui sont illustrés, si on se souvient bien, par Vatine, je crois que c'est ça.
Oui, il y avait une partie encyclopédique.
Il y a un côté encyclopédique,
ouais.
Ça t'a empêché tes romans d'être publiés, d'être reconnus, d'être primés, d'être lus, d'être appréciés. Hein.
Oui.
Oui, mais je pense que si je peux me permettre, la grosse différence, c'est que Laurent savait écrire un roman. Exploitant l'univers qu'il avait inventé. Le défaut que je pointe là, c'est des gens qui ne savent pas encore écrire un roman parce qu'ils n'ont pas encore repéré que l'économie narrative du roman est fondamentalement différente de celle du jeu de rôle et du jeu en général, et que ça ne commence pas par un briefing sur c'est un univers où, pour être tout à fait honnête, quand tu relis aujourd'hui Edding ou Jordan, etc., ça commence toujours par une putain d'intro qui t'explique qu'autrefois il s'est passé tout ça. Bon, décemment, aujourd'hui, on ne permettrait pas à un jeune auteur de faire, disons, on ne commence pas par vous expliquer l'univers, ou un menu déroulant qui nous dit, bien entendu, dans une galaxie très nouvelle.
Mais en tout cas, il y a quand même, là où moi je trouve qu'il y a quand même un. On sent la même culture, et puis la même appréhension, c'est le côté ludique, que ce soit dans la fantasy ou la SF ou le jeu de rôle ou le jeu vidéo, il y a cette espèce d'impulsion d'aller expérimenter des trucs. Alors, je parle en tant que créateur, mais même en tant que lecteur, en fait. Par exemple, quand on prolonge le plaisir de lecture en s'imaginant vivre une aventure dans le même univers, mais en s'écartant, on a fini de lire le roman, et puis on va imaginer d'autres aventures. Donc ça produit des fanfictions, par exemple, des fois, mais donc c'est cette logique-là d'aller voir les limites de la simulation, d'une certaine manière, et puis jouer avec. Et ben ça, c'est commun entre le roman et le jeu. Pour moi, c'est quelque chose. La SF, j'ai toujours considéré que c'était d'essence ludique. pas dans le développement des histoires, mais dans le développement des thèmes, de comment on s'empare d'un thème, on le démonte comme une machine pour voir comment ça fonctionne et comment ça, voilà, il y a un côté ludique, quoi. Pour moi, il y a cet esprit. On m'a parfois demandé ce que c'était qu'un geek. C'est un peu ça pour moi. Un geek, c'est quelqu'un qui va chercher à démonter une machine, que ce soit un jeu de rôle, un jeu vidéo, un roman de SF, de fantasy.
C'est un point, je me permets de rebondir là-dessus, qui me paraît en effet absolument fondamental. C'est particulièrement, alors toi, ton genre de prédilection, c'est la SF, moi c'est la fantasy, c'est que la fantasy est fondamentalement ludique. C'est-à-dire c'est un jeu avec l'imaginaire qui ne cherche aucune justification. Donc elle a une... Enfin, en gros, on nous dit, dans un trou vivait un hobbit, bon, où, quand, pourquoi, comment, c'est pas le problème. Tu prends ou tu prends pas. Si tu prends, tu y vas. Si tu prends pas, bah, tu n'es pas de fantasy. Et je trouve que cette intuité qui est fondamentale, qui est constitutive de la fantaisie, qui n'empêche pas ensuite de trouver une cohérence dans l'univers, et encore plus important évidemment dans l'histoire, le parcours des personnages, l'enchaînement des événements, etc. Mais cette gratuité de départ, évidemment, elle est fondamentalement ludique, et elle explique, je pense, en grande partie, ne serait-ce que dans le... Enfin, la façon dont la fantaisie est présente, et même complètement irriguée, nourrie. Là, on parle jeu de rôle, jeu vidéo, mais enfin, la bande dessinée, la littérature jeunesse, hein, les libraires qui disent « moi, je veux pas de fantaisie », ils ont un rayon jeunesse, il y en a 80%, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne le repèrent pas. Donc,
mais attends, je veux dire, est-ce qu'un roman de fantaisie adulte publié en jeunesse n'aurait pas forcément le plus de succès?
Un roman de fantaisie, est-ce qu'il aurait plus de succès?
J'ai vécu ça en live avec. J'ai sorti une trilogie donc qui est résolument adulte, qui est visite par des ados, mais qui est écrite pour des adultes.
Le Puits des Mémoires, qui est génial. Je vous invite à lire Pocket SF.
Et donc j'ai sorti un one shot juste après qui s'appelle La Maîtresse de Guerre, qui est exactement la même plume avec exactement le même monde, c'est juste pas le même personnage. Et mon éditeur a dit on va le mettre en langue adulte, parce qu'il y a plein de jeunes qui le lisent, etc. Et on va vendre vachement mieux. En l'occurrence, on a vendu exactement la même chose en langue adulte qu'en fantasy adulte. C'est vraiment, vraiment la même chose. Donc, ni plus ni moins. Il y a plus de coups de cœur Fnac, super. Et en fait, les gens qui avaient aimé depuis des mois, très souvent, sont venus me voir en disant « Ouais, mais quand même, on sent dans le style que c'est un peu jeunesse, quand même, juste parce qu'il était dans le rayon langue adulte. C'est la même chose, c'est la même plume. » Mais vraiment, en toute bonne foi, les gens se sont dit « Ah, la vache, quand même, on sent que c'est jeunesse. Hein, on sent que c'est jeunesse. » C'est plus simple. Ben oui, c'est plus simple, parce que c'est un tome au lieu de trois. Donc, oui, c'est plus simple. Il y a vraiment un truc. Hein,
Georges Martin en jeunesse, je pense pas que ça aurait dû marcher qu'en adulte.
Non, sans doute pas.
À mon avis, ça n'avait pas sa place en jeunesse.
Non.
Non.
Non. Non,
carrément.
Tu t'as passé pour un horrible moraliste.
De même, comme vous savez, le Bilbo le Hobbit, 37, c'était un roman jeunesse, hein, très clairement. Et Le Seigneur des Anneaux, évidemment, là, il y a une dimension adulte. Alors, je ne sais pas si c'est à ce point interchangeable, même si c'est vrai par rapport à l'imaginaire que, comme tu dis, 80% des romans, alors, je ne sais pas si c'est absolument 80%, mais c'est dans ces eaux-là, des romans jeunesse, c'est de la fantasy. Je veux dire, si on regarde Eric Lom, comment s'appelle le livre L'histoire des étoiles, ou Pierre Otero, si vous lisez Elana, des choses comme ça, ce sont des romans de fantasy, point excellent, hein, c'est pas le problème. Et c'est des romans de fantasy qui ont tout à fait pu trouver leur place dans les collections adultes, en tout cas pour Pierre Otero. Problème. Pourquoi la jeunesse? Est-ce que ça veut dire. Il y a une chose qui m'a frappé depuis une quinzaine d'années, justement, on ne disait pas ça en 2000. On distingue l'imaginaire adulte, on parle de la littérature jeunesse, puis il y a l'imaginaire, puis on rajoute adulte. Ah oui, parce que c'est très curieux. Comme s'il y avait eu une dichotomie, tout à coup, l'imaginaire depuis Harry Potter, c'est devenu la jeunesse. Et si on fait de l'imaginaire pour les adultes, il faut le préciser. Ça t'a pas frappé, ce truc?
Bah, si. et d'ailleurs, ça pose un problème de marché. Hein. C'est que moi, je pense qu'une bonne partie du déclin des ventes du rayon imaginaire est due au déploiement du rayon young adult, qui a déplacé un lectorat et qui donc a déplacé des ventes. Moi, ma réponse à ce que tu décrivais, Gabriel, c'est que là, c'est purement une question de marketing. C'est comme ça, c'est bien comme ça que tu l'as décrit. Donc en fait, c'est pas une réflexion sur ce roman s'adresse-t-il ou dans son contenu s'adresse-t-il plutôt
à des jeunes, enfin à des enfants ou à des adultes, etc., c'est où est-ce qu'on le met. Il y a plein d'exemples aux États-Unis de séries qui ont commencé, exactement ce que tu viens de décrire, Gabriel, qui ont commencé au rayon jeunesse, puis dès que ça, quand ça a explosé, l'éditeur s'est dit, oh, mais en fait, ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez que 50% du lectorat young adult a plus de 30 ans. Donc young adult, c'est des montants. Hein.
Oui.
Donc en fait, voilà, c'est un peu absurde. Pourquoi aussi? Parce que la littérature dite young adult, enfin adolescente, est extrêmement lisible et extrêmement attirante. Donc il y a tout un lectorat adulte qui se dit, oh ben ça c'est facile à lire, ça j'y arriverai, puis ça a l'air sympa. Plus le dialogue intergénérationnel, très frappant sur des séries comme Twilight, Harry Potter, etc. C'est-à-dire des lectrices majoritairement qui disent, la grand-mère, la mère, la gamine lisent le même bouquin et en parlent. Bon. Et ça, c'est quand même, enfin, c'est un peu plus facile à faire aujourd'hui sur quelque chose qui est lisible par le jeune que sur, je sais pas, Isola ou Balzac. Mais pour revenir à ta question sur la fantasy, oui, c'est évident, c'est aujourd'hui Magicien de Faist ou Shannara a été publié pour la première fois. Non seulement, enfin, ça ne serait même pas Young Adult, ça serait en middle grade, ça serait à partir de 10 ans, parce que c'est des bouquins qui sont lisibles à partir de 10 ans. Ursula Le Guin, Terre Mère, si mes souvenirs sont bons, était en tranche 9-12 aux États-Unis. Alors que, quand même, littérairement, quelque chose qui se pose un peu là, et que moi j'ai lu en tant qu'SF. J'ai jamais eu l'impression que je lisais un truc de jeunesse. Mais la fantaisie a toujours eu particulièrement cette capacité de réunir un lectorat vraiment de 11 à 111 ans. L'important, c'est que c'est, je pense que c'est seulement assez récemment qu'elle a produit sa frange la plus adulte. C'est-à-dire qu'en gros, ces 15 dernières années, avec Martine, avec toute la vague de Grimdark, Abercrombie, Laurence, etc., elle a fait, j'ai coutume de dire, elle a fait ce que, à la fantaisie, ce que Charles Léon avait fait au Western, c'est-à-dire ils sont tous affreux, ça les méchants, etc., il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexe, etc. Et là, fondamentalement, il est difficile de dire, ah, c'est lisible à partir de 10 ans. Donc la ligne de démarcation, elle s'est créée là. Donc il y a d'abord un moment, je dirais un geste marketing, et ensuite une véritable évolution dans le contenu qui permet de dire, comme tu viens de dire, décemment, le trouble de fer, c'est pas pour les gamins. Ceci dit, pas pour les gamins, on a 12 ans, on peut aussi lire Tchekhov et il est pour une jeunesse. Donc.
Oui, mais quand on est gamin, on peut dire qu'il y a encore moins d'adultes quand on est gamin.
Bah, bien sûr, le plan marketing, ça consiste pas à dire ce livre ne peut être lu que par les jeunes, ça consiste à dire ce livre adresse. Concerne des sujets qui intéressent prioritairement les jeunes. La première expérience sexuelle, la peur de la mort, quand mes parents ne sont plus là, est-ce que je trouverai un boulot, etc. etc. Bon. Donc c'est ça l'idée du young adult. Ensuite, il y a le new adult qui disent, bon, maintenant que le couple s'est installé, quelles sont les expériences de la vie qui sont illustrées par ces gens-là. Ça, c'est à la fois c'est la rencontre d'un dispositif marketing, d'une décision marketing, et du désir d'un auteur de raconter une histoire qui tombe assez bien dans cette case-là. Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que les jeux s'adressent clairement aux enfants, a priori. Sauf que dans le jeu de rôle, on a quand même un peu vieilli. Peut-être que le jeu de rôle, maintenant, d'ailleurs, s'adresse majoritairement aux vieux, en fait. Et la littérature de l'imaginaire, là, on a l'impression, surtout du film Harry Potter, que ça s'adresse majoritairement aux enfants.
Il y a, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, il y a une question de fréquentabilité aussi, qui est très très forte en France, qui n'existe pas dans les pays anglo-saxon, qui est que la fantaisie a un petit côté honteux quand même, un peu moins maintenant. Ce qui fait que moi j'ai par exemple des parents de gamins qui ont lu, ils ont 15-16 ans les gamins, ils ont lu plus des mémoires, ils ont aimé, ils viennent me prendre genre le tome 2 ou 3 en salon, et ils s'excusent en me disant qu'ils lisent quand même des vrais bouquins. Donc, je sais que c'est sans prétention, mais j'aime bien quand même, hein, franchement. Donc, j'ai vu autre chose aussi, vous savez, moi, la princesse de Clèves, j'aime bien aussi. Donc, il y a vraiment un truc de fréquentabilité. Il y a un moment où la fantaisie, il fallait la lire avec la couverture un peu planquée, comme un bouquin porno, parce que c'est un peu honteux. Donc, ça part, avec le trône de fer, c'est en train de partir, en fait, ce phénomène-là. Mais sinon, j'ai vraiment des gens qui s'excusent en prenant mes livres, en fait.
Ça part avec le trône de fer, je me demande en quelle mesure le trône de fer, au contraire, c'est pas. Qui cache la forêt, enfin, c'est comme si tout à coup l'ensemble de la fantaisie adulte se réduisait peut-être au trône de fer, et vaguement avant à Seigneur des Anneaux.
Je crois que c'est une sorte de passeport, c'est-à-dire que tout le monde télécharge ça, regarde ça, ne serait-ce qu'en série, tu dis, ah, mais si c'est regardable, si les Américains le font, c'est peut-être pas si honteux que ça. Donc on peut commencer à y venir. Il y a vraiment un côté maladie honteuse dans la fantaisie française qui a duré probablement assez longtemps, et quand je suis arrivé, pas très longtemps, en 2012, c'était quand même déjà ça.
Et Stéphane, tu me diras, pardon, je me demande quand même si Trône de Fer n'a pas asséché les ventes de fantaisie à but par Côte-Gold.
Alors là, je confirme. L'explosion du Trône de Fer est contemporaine d'une baisse de 24% du marché de la fantaisie l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, et en Angleterre, c'est hallucinant. En Angleterre, George Martin, c'est 80% des parts de marché de la fantaisie. Donc ça veut dire que 8 types sur 10 qui se disent « Tiens, je verrais bien revendre fantasy », achètent le Trône de Fer. En fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a un public qui n'était pas lecteur de fantasy et qui s'est mis à lire le Trône de Fer. Du coup, les parts de marché du rayon ont explosé. Mais en fait, exactement ce que tu dis, ça a siphonné, ça a aspiré, ça a asséché le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Le libraire dit bah, « Pourquoi je me casserais le cul à mettre un autre bouquin de fantasy en tête de gondole ? Il suffit de mettre le Trône de Fer parce que ça, au moins, ça vend, etc. etc. » Mais ce sont des phénomènes, enfin là on parle de fantasy, mais c'est pareil en SF, c'est pareil sur tous les genres. Quand il y a, si vous regardez les ventes du Young Adult, et puis vous regardez les ventes du Young Adult avec Harry Potter et Twilight, bah, le reste, il n'y a plus rien. Enfin, c'est un peu normal. Là où ça devient problématique, et ça boucle sur ce que vous étiez en train de dire, c'est nous, évidemment, enfin nous, acteurs de ces genres, on voudrait croire à un prosélytisme. On voudrait croire, on voudrait dire, après tous les gens qui ont lu le Trône de Fer se disent en fait la fantasy c'est bien, j'en lirai bien. Je lirai bien autre chose que ça. Non, parce que déjà ils ont mis un an à lire les 5 tomes du Trône de Fer. Donc on leur dit, hey, tu veux un autre roman de fantasy ? C'est bon là, j'en ai assez bouffé. Et deuxièmement, un truc qui arrive au niveau du Trône de Fer, quand même pas des masses, hein, chez le deuxième, c'est vrai. Par son ampleur, par sa médiatisation, par bref, vous connaissez tous le truc. Mais Harry Potter c'est pareil, je pense que tu t'en souviens très bien, David, les journalistes qui disaient alors avec le succès du Seigneur des Anneaux au cinéma et de Harry Potter, la fantasy ça cartonne chez vous. C'est-à-dire qu'on avait récupéré 1% des ventes de Harry Potter.
C'est-à-dire que le
phénomène, c'était à Hawaï.
On s'était dit que, effectivement, peut-être que Harry Potter, on s'était dit que les lecteurs d'Harry Potter, en grandissant, allaient vouloir lire de la fantasy pour adultes, mais pas du tout. C'est-à-dire que les lecteurs de Harry Potter, ce qu'ils aiment, c'est pas la fantasy, c'est Harry Potter. Les lecteurs des Seigneurs des Anneaux, c'est pas la fantasy en général, quoique, hein, c'est un peu particulier, mais c'est le Seigneur des Anneaux. Pour George Martin, c'est probablement pareil.
Il s'est passé exactement la même chose. J'en souviens au temps des SFMAG, où on était avec Laurent, on avait ce genre de conversation. C'est les gens qui sortaient d'Indépendance Day. Et on leur disait, alors les SF, ça vous plaît ? Et ils disaient, non, moi j'ai vu un film d'action. Bon, tout à fait tard. Mais, on comprend le phénomène, c'est-à-dire qu'on n'aperçoit pas le genre dans lequel s'inscrit l'œuvre qu'on a appréciée, on reste sur l'œuvre elle-même. Et je trouve que c'est, pour revenir sur la question du jeu, je pense que c'est très intéressant parce que finalement, ce qu'on a décrit essentiellement, là en parlant du jeu, c'est pas les jeux, c'est les univers. Monsieur Ben Salem, qui est là, centré sur mon remarque. Donc en fait, on n'a pas parlé des mécaniques, on n'a pas parlé de l'implication des joueurs, etc. On a parlé des univers. Et ça veut dire que c'est à la fois une question évidemment fondamentale, mais c'est une question qui bouffe complètement le sujet. C'est-à-dire que ce qui fait que plein de gens ne rentrent pas dans un univers de fantasy, de SF, etc., c'est parce qu'ils captent pas l'univers. Enfin, on a tous rencontré des gens
l'univers où ils ne sont pas joueurs.
C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas jouer.
Ils ne sont pas joueurs, peut-être.
Joueurs en tant que praticien ou joueurs
joueur dans l'esprit. Joueurs dans l'esprit. C'est-à-dire que probablement, ce type de littérature, à un moment donné, tu t'amuses à jouer avec les codes, à brouiller les lignes, à jouer avec d'autres choses. Et peut-être qu'une incapacité à jouer ou une non-appétence pour le jeu fait faire que tu ne peux pas pénétrer et apprécier ce type de littérature.
Je voulais rebondir à mon tour. Je n'aime pas le Trône de Fer. Donc j'attends qu'une seule chose, c'est que ça se termine pour voir si justement les gens n'ont pas envie, enfin sont tellement habitués à ce genre de choses qu'ils auront besoin de la même chose. Et donc je me dis vivement que la série soit terminée, qu'on arrête de voir des têtes de gondole avec du Trône de Fer partout, parce qu'effectivement on ne voit plus rien d'autre. Et enfin, peut-être qu'on va redécouvrir, j'ai oublié les mercenaires là chez
un machin Talence. Comme le Trône de Fer.
La Compagnie Noire, je sais pas, le Cycle des Épées. Peut-être qu'on pourrait enfin voir des choses qui pourraient remplacer enfin le Trône de Fer.
Le Cycle des Épées, on rêve de le voir redécouvrir.
C'est pas un sujet qui fâche.
Les trois premiers volumes sortent en 10 ans, 10 euros. Vous pouvez maudire de 10 euros, donc en grand format au mois de mai. Et va être de nouveau disponible en numérique et en.
en impression allemande. Oui, mais enfin, pour ça, enfin, c'est ça aussi la tristesse du truc, et là encore, je parle pour la corporation des épiciers que sont les éditeurs, et qui sont tous à la ramasse derrière la télé et le cinéma, c'est que le Trône de Fer, ça n'a pas marché, hein, avant la putain de série télé. C'est-à-dire, les ventes étaient très décevantes, je me souviens très bien de l'agent disant « Alors là, on est déçus, on s'attendait à mieux, etc. » C'est HBO qui a fait de ce truc un succès absolument phénoménal.
HBO, donc, justement, fera la prochaine série...
Voilà. Et tous les éditeurs du monde mettent des cierges en disant qu'on veut que la prochaine grosse série télé soit adaptée des...
Non, le Trône de Fer, fait par France 3, moi j'attends.
Aux États-Unis ?
Oui, par la France. Les Rois Maudits, pourquoi les Rois Maudits ? Parce que c'est la série préférée
de George
Martin. Donc en fait, on va encore, même quand le Trône de Fer s'arrêtera, tu vois, ça va continuer. Voilà.
Ça, c'était mon premier rebond. Et mon deuxième rebond, c'était sur ce que tu avais dit, Gabriel, c'est la perception de l'imaginaire. Moi, je suis aussi assez persuadé que les Français ne sont pas comme les Anglo-Saxons. Il y a vraiment un... Chez les Anglo-Saxons, c'est presque un truc acquis. On peut tout faire, on peut tout dire, on peut tout... Il y a tout ce qu'on veut. Là, en France, j'ai l'impression que c'est très compliqué, c'est un peu laborieux, c'est dans certaines... pas des ornières, mais enfin, on peut pas s'écarter. Il y a vraiment, voilà, oui, je fais de la fantasy, mais j'ai un vrai boulot à côté. Oui, je fais de la bande dessinée, mais oui, j'essaie d'en vivre. Ah, mon pauvre, ça doit être difficile. Il y a cet état d'esprit-là. J'ai peut-être une vision un petit peu tronquée du monde anglo-saxon, mais j'ai l'impression que là-bas, c'est peut-être Tolkien, je sais pas, la fantasy est ancrée, on peut en faire ce qu'on veut.
En France, on ne vit pas forcément de la littérature énorme.
Pardon ?
Je dis en France, tu ne vis pas forcément la
non,
littérature
non, non, tu ne vis pas.
Je vais me permettre d'apporter un petit contrepoint à ça. Alors oui, c'est une évidence, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que tu vois, tu peux rencontrer des Anglais qui brament en disant la SF, dans notre pays, ça n'intéresse personne. Ils ont Doctor Who, qui est le truc familial qui cartonne depuis 50 ans, où la moitié de l'Angleterre s'arrête de respirer et d'aller pisser parce qu'il y a un épisode de Doctor Who. Tu dis ça, les Américains, ils disent exactement, se plaignent exactement la même chose. Ils disent, oh, bah, moi, je suis qu'un auteur de fantasy. Bon, tu vends 20 millions d'exemples. Oui, mais enfin, je suis qu'un auteur de fantasy. Un mec comme Terry Goodkind, par exemple, que je publie et qui fait vivre une bonne partie de ma maison, ça fait des années qui se plaint en disant moi je suis dans une ornière parce que je suis même pas un auteur d'aventure, je suis même pas un auteur historique.
Peter Straub se plaignait de la même chose également.
C'est le syndrome Stephen King qui veut être reconnu donc pour autre chose qu'un auteur.
Voilà, en fait, exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que.
Problème, enfin, tu vois,
ça veut dire qu'il y a quelque chose, et donc moi je fais volontiers l'avocat du diable dans ce genre de réflexion. C'est que je pense que c'est nous qui avons un problème. C'est-à-dire, c'est nous, acteurs, écrivains, auteurs d'imaginaire, etc., qui avons des complexes. Certes, on affronte en permanence un monde incrédule et hostile, particulièrement dans la télé, le cinéma, etc., dans la critique littéraire, n'en parlons pas. Moi, je suis dans une commission au CNL, j'ai pas le droit de dire ce que j'y entends, mais je vous laisse imaginer ce qu'on pense de la fantasy, ou même le polar, c'est pas de la littérature, vous voyez, là, pardon. Mais en même temps...
Tu dis même le polar.
Bah parce que le polar est quand même beaucoup plus reconnu comme de la littérature en France que l'imaginaire depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est social, parce que c'est de la littérature du réel. Et donc c'est sérieux. Mais ça veut dire qu'on est... Enfin, il y a des complexes quand même qu'on se crée nous-mêmes, et il y a aussi des auteurs qui sont parfaitement décomplexés et qui passent pas leur temps à geindre en disant « personne ne reconnaît ce que je fais ». Bah, y a des auteurs de littérature générale, personne ne reconnaît ce qu'ils font non plus, alors qu'ils racontent l'histoire de gens qui prennent des cafés à des bistrots, et ils peuvent même pas s'abriter derrière le fait qu'ils sont dans un genre qui est considéré comme infantile, comme... Tu vois, bon.
Oui, c'est vrai que on doit lutter assez fréquemment pour un peu affirmer ce qu'on aime, le jeu de rôle. Enfin, quand on a commencé, on a tous à peu près le même âge, c'était très compliqué. Limite, on était dans une secte, on allait faire des sacrifices dans des catacombes. Enfin bon, c'était quelque chose d'assez démentiel à l'époque. Et c'est vrai que là, moi, enfin, à titre personnel, depuis ce matin, je suis sur un petit nuage parce que c'est absolument génial. J'ai écouté, pendant une heure et demie, je me suis assis, on m'a parlé de Robert Howard et de Conan. Après, on a parlé de jeux de rôle pendant une autre heure et demie. Et là, on est en train de parler de fantasy, de littérature, même du Trône de Fer, c'est chouette. Donc, c'est absolument hallucinant.
Alors, toi, tu es dans la BD. Je pense que tu ne crois pas que la BD est une exception. Tu ne crois pas qu'avec Astérix, Valérian et compagnie, Il n'y a pas ce même ostracisme.
Mais parce que Stéphane, la BD a toujours été considérée comme un truc pour les gosses. Donc, si tu veux, il y a des.
Oui, déjà,
j'aurais essayé.
La BD, il a fallu le temps de Mouse pour qu'on considère que la BD était enfin un adulte.
Et puis, ne serait-ce que la terminologie, la BD, c'est vraiment. Moi le mot BD me sort par les oreilles, c'est pas possible. C'est presque insultant. C'est vraiment. Voilà, tu fais de la BD, tu fais des petits Mickey, tu es dans un autre métier, quoi. Non, vraiment, je. Voilà.
C'est ouais, mais sérieusement.
Pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, enfin, tu fais vraiment que de la BD.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est un boulot où on dessine. C'est comme, effectivement, des gens qui testent des jeux, et ben, ils jouent. Voilà, c'est des gens qui réfléchissent à des univers. Ce sont des métiers qui sont assez difficilement compréhensibles par le commun des mortels, on va dire. Et on doit souvent lutter contre des idées reçues.
Mais comme tout le monde.
Ouais, mais il y a Tardy et Bilal, quoi.
Ouais, bah ils sont deux.
Ouais.
Oui, comme Martine et le Trône de Fer, t'as les locomotives et puis t'as ceux qui traînent derrière et ils sont nombreux, quoi.
Je suis pas d'accord.
Ouais, mais il y a des. Ouais, moi j'arrive pas à être. D'abord, il y a des reconnaissances internes qui valent largement une reconnaissance. Généraliste qui n'existe pas en fait.
C'est ça n'existe pas. Les reconnaissances généralistes, c'est quoi?
Oui, voilà, exactement. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Donc,
ça, c'est une reconnaissance interne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde non plus, mais ça fait beaucoup de bien.
Non, mais je sais pas, quand il y a Vatine, quand il y a Olivier Vatine ou un Bilal.
Pardon?
C'est les sous en fait, la reconnaissance générale.
Bon, non, c'est même pas vrai, c'est ça, mais il est pas reconnu par la critique.
Non, c'est vrai. Non, mais en fait, il y a un truc, je vais parler du parcours du combattant, du scénariste. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si tu es scénariste et écrivain, ce qui est mon cas, tu te dis, tiens, je fais de la fantasy, ça marche pas mal, je vais aller voir les gens avec qui je bosse en disant, on va faire une série, on va pas pleurer devant trop de faire toute notre vie, on va faire une série française. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup d'argent en fait en France en production audiovisuelle. Sauf que là encore, c'est un truc de pestifère. Donc en fait, j'ai vu des gens pas mal, j'ai vu Canal, j'ai vu EuropaCorp, j'ai vu gros trucs, TF1, tout ça. Et tous me disent, oui, bah écoute, fais-moi un truc historique, parce qu'on aime bien ce que tu fais, c'est chouette, tout ça. Mais la fantasy, voilà, c'est sale, c'est infect, c'est dégueulasse. Donc ils adorent le Trône de Fer tous autant qu'ils sont, mais dès qu'il s'agit d'adapter en France, avec de l'argent français, un truc de fantasy, ils se disent, on va dans le mur.
Mais ils n'ont pas forcément tort, parce que
tu
peux l'anticiper, et déjà tu plisses les yeux en te disant, je vais avoir mal, quoi, c'est...
Ce sera mal éclairé, ce sera mal joué, ce sera mal...
Non, aujourd'hui, les séries Canal, par exemple, elles sont pas mal. C'est-à-dire, tu peux aujourd'hui avoir un vrai réal, tu peux avoir un vrai comédien, c'est plus totalement des science-fiction.
Il y a des revenants, j'ai pas vu les revenants.
Mais oui, mais
il y a un renage, il y a un revenant, Brando, il y a...
Oui, mais c'est mais voilà, mais ils ont des blousons de cuir et ça se passe maintenant. Donc, tu vois, j'ai du mal à croire un Trône de Fer français. Alors, j'aimerais beaucoup.
C'est très très bien fait.
Avec Mimi Mathy, ça peut le faire.
Maison Close, t'as pas vu ça?
Si, j'ai vu.
C'est bon.
C'est une aide aussi.
Très très bien fait, c'est très beau. Et leurs reconstitutions historiques sont énormes.
Oui, pour nous faire un maléfice ou un truc comme ça, un univers de l'autre, un peu sympa. Oui, il suffirait d'injecter un tout petit peu de fantastique et on y est, oui, c'est vrai.
Il n'est pas dit que ça se fera un jour.
Ça va se faire, on va le faire.
Il y a des questions dans la salle.
Mais de nouveau, c'est un peu la perception du fantastique et du merveilleux entre français et anglo-saxon. Je pense qu'il y a vraiment un...
Mais surtout, je pense aussi que ça a probablement un rapport avec le rapport au plaisir. Se faire plaisir, et aussi le statut de l'intelligence, de l'intellectuel. J'ai l'impression peut-être que je me trompe, hein, mais qu'en France, en gros, si tu as du plaisir, c'est que c'est peut-être pas bon.
C'est coupable.
Moi, il y a une chose qui me frappe toujours énormément, c'est vraiment, même si les auteurs américains se plaignent, j'ai envie de dire, ils se plaignent, mais enfin, quand même, ils arrivent à se retrouver, pour certains d'entre eux, en tête de, si je prends Brandon Sanderson, Jordan et autres, ils se plaignent, mais ils sont très riches. En France, ils se plaignent, mais ils n'ont même pas d'argent.
Donc on a oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai, ça.
C'est peut-être pas non plus la même masse de... Enfin, c'est le public.
Bah oui, clairement. Hein.
Beaucoup plus restant.
Ouais.
On est quand même 70 millions.
Non, mais ce que je disais, c'est que par rapport à ce que vous disiez sur faire une série en France à la française... C'est qu'une série américaine aujourd'hui a une radiance mondiale.
Alors, surtout
alors,
surtout une série en France, les gens qui regardent le Trône de Fer. Les gens qui regardent le Trône de Fer, c'est exactement le même public que le public anglo-saxon, ils aiment le Trône de Fer.
Mais mais donc, ça regarde déjà les séries américaines.
Oui, justement, mais ça n'empêche pas les Anglais. Non, mais après ça, alors, ok, les Anglais parlent anglais, comme on sait. Enfin, quand même, c'est un pays comparable à la France par la population, par l'économie, et y compris par l'exportation. Il ne faut pas croire qu'ils exportent tant que ça leur série télé. Ça ne les empêche pas de faire des séries télé qui sont tombées à la renverse de qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? Et là, c'est même pas le scénario, hein, excuse-moi Gabriel, mais c'est même pas le scénario. Je veux bien, mais est-ce que ça coûte moins cher d'éclairer mal, peut-être ? Est-ce que ça coûte moins cher de jouer mal ? Peut-être, faut, là, faut me dire, je connais, c'est un domaine que je connais moins bien, mais il y a quand même, si vous regardez
les séries télé... C'est une question d'ancienneté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef-op sur une personne qui fait la lumière sur un tournage, c'est le mec qui est là, qui est depuis 1000 ans, qui a fait Louis la Brocante, qui a fait Joséphine Ange Gardien, qui a fait énormément d'audience sur TF1 ou ailleurs, et on reprend le même. Et c'est pour ça que sur des séries modernes écrites par des scénaristes jeunes, on a une lumière dégueulasse, on a une image infâme et on a une caméra fixe.
Je voudrais dire un autre truc, mais ça me tourne le pied, je passe le micro après, ça me tourne le pied depuis 20 ans, et je me demande quand même dans quelle mesure les littératures de l'ailleurs, de l'imaginaire, ne doivent pas venir aussi pour nous Français d'ailleurs, c'est-à-dire des États-Unis ou d'Angleterre. C'est-à-dire, si elles viennent. Alors, il y a des exemples qui démontrent le contraire, hein, comme Botero, Edlom, Timothée de Fombelle, ce que vous voulez, mais il y a quand même un moment où on se dit, tiens, mais si c'est. Enfin, je veux dire, mon voisin, il ne peut pas écrire un truc avec des elfes. Parce que je sais bien, chez mon voisin, il n'y a pas d'elfes. Donc, je ne veux pas pouvoir rentrer dedans. Mais il faut partir, ça.
Il
ne
se montre pas à n'importe qui, il se montre au voisin, c'est
pour ça. Merci beaucoup. Donc tout ce débat, c'est toutes ces questions qui me touchent, puisque j'ai découvert le fantastique et la science-fiction tout jeune. Mon père m'a mis ça sur les genoux tout petit. Et là, avec mes études, j'ai suivi un cursus littéraire. Je suis passé justement dans des milieux assez exigeants. Je suis passé rapidement dans un endroit où c'était très élitiste. Et dès que je sortais un bouquin de science-fiction, je regardais avec des humeurs comme ça. Et là, je termine mes études de cinéma. Là, je vais étudier la production. Et donc, toute cette thématique, comment aborder les thèmes du fantastique, ça, je l'ai vécu plein de fois. J'en ai discuté avec plein de gens, même des gens qui travaillent dans la production. Les gens, tout le monde s'en plaint, mais personne ne semble faire quoi que ce soit. On ne sait pas trop. C'est justement les risques. Les risques font vraiment trop peur. On a, d'un côté, on a suffisamment d'argent, mais de l'autre, on a pas assez de public. Les Américains, c'est plus de 200 millions de personnes, il y en a 60.
Les Anglais.
Les Anglais aussi, mais les Anglais et les Américains sont...
Les Allemands.
Oui, les Allemands. C'est encore une chose. Mais ça reste, justement, les Anglo-Saxons. Parce que... C'est les Danois, mais ils sont tous connectés dans un certain état d'esprit. C'est qu'ils ont un certain enthousiasme. Et effectivement, vous parlez de sérieux culturel. C'est justement, nous on a quand même un art de ne pas vouloir se compromettre et de rester très propre sur soi. Et je pense que ça affecte de plein fouet là, justement des choses qu'on ne considère pas sérieuses. Et pourtant, je trouve que dans le fantastique et la science-fiction, j'ai trouvé parfois les thèmes les plus importants que j'ai découverts, intellectuellement parlant, des choses très larges sur toute l'histoire de l'humanité, sur ce que nous sommes et ce que nous serons plus tard, enfin c'est ce que nous avons été.
Des livres extraordinaires, absolument. Les littératures de l'imaginaire, je pense, sont beaucoup plus liées au réel, elles sont tenues pour être de qualité, de l'aborder, d'en tenir compte, beaucoup plus qu'un roman qui se passe au bistrot ou de personnes qui discutent de leurs impôts. Hein. Si vous voulez ailleurs, il faut savoir ailleurs d'où, à partir de quoi. Si vous ne tenez pas vraiment compte de ce que c'est ce point de départ, ça ne marche pas. Je vais vous raconter une anecdote. Ils sont arrivés hier, là, dans le cadre de l'organisation du festival, qui rejoint un peu ce qu'on parlait de passer les blocs, on a besoin d'une assurance. Pour le festival, pour vous assurer tous, là, pour que tout se passe. On a besoin d'une assurance entre notre magnifique trésorier et d'avoir un assureur. Dans la vie réelle, j'allais dire, il est contrôleur de gestion chez Leclerc, donc les chiffres, il connaît un petit peu. Et il discute avec l'agent d'assurance, qui lui demande, alors au début c'était bon, on avait l'assurance, il n'y avait pas de souci. Curieusement, il y avait personne en face de lui, la personne lui demande, alors c'est pourquoi c'est un festival d'imaginaire. Et la personne fait « l'imaginaire finalement, vous ne l'aurez pas. » je fais court le truc, la personne appelle quelqu'un d'autre, dit « Oui, non, c'est un truc, oh, c'est l'imaginaire. » Comme si nous en manquions, comme si ce n'était pas quelque chose d'extrêmement important, comme si ce n'était pas quelque chose avec lequel nous vivons tous, hein, en permanence. Parce que d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire,
L'idée qu'on se fait du futur et la connaissance qu'on pense avoir du passé, c'est aussi l'imaginaire. Ce qui se passe de l'autre côté de la porte, là, vous savez très précisément.
J'ai dit tout à l'heure que je me faisais volontiers l'avocat du diable. Je résiste un peu à cette auto-célébration des gens qui sont de l'église de l'imaginaire qui parle au fidèles de l'imaginaire. Je veux dire par là que je pense qu'il y a dans la littérature de l'imaginaire, enfin, il est utile de reconnaître aussi de bonnes raisons, ou en tout cas des raisons valides, à l'opprobre, aux réticences, à l'hostilité qu'on peut rencontrer quand on aime l'imaginaire et qu'on essaye de le faire partager. Je pense aussi que particulièrement les auteurs d'imaginaire ont des défis et des difficultés à relever dans leur travail que les auteurs de littérature qui n'est pas imaginaire n'ont pas. Particulièrement dans tout simplement le fait de mettre un univers en place et de le faire partager. C'est-à-dire que quand on dit il entra dans le bistrot et prit un café, il n'y a pas besoin d'expliquer, on voit tout ce que c'est un bistrot et un café. Quand on commence, alors que dans un trou vivait un hobbit, là vous pouvez vous arrêter en disant c'est quoi un hobbit. Et donc ça veut dire que l'enjeu pour l'auteur d'imaginaire, c'est de faire en sorte qu'on puisse lire le livre, ou en tout cas commencer à lire, même si on ne sait pas ce qu'est un hobbit, on ne sait pas encore, et au fur et à mesure de faire comprendre enfin, tout ce qu'on connaît, la gestion de l'information, sa dissémination, son illustration par les événements dans le récit, etc.
Il faut que le hobbit il rentre dans le café.
Il faut que le hobbit rentre dans le café. Ben, il a un peu tendance à le faire dans l'auberge. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas Spinoza en a déjà parlé, disait, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas déplorer, mais comprendre. C'est-à-dire, il y a quand même. Voilà, on ne peut pas simplement se taper la tête contre le mur et dire si vous. Et je pense que. On a eu des discussions là-dessus il y a très très longtemps dans une galaxie très lointaine. Je pense que le milieu de la SF est très largement, enfin, a une part de responsabilité dans les problèmes qu'il rencontre depuis très très longtemps, parce qu'il est devenu très très orthodoxe, très emmerdant dans les années 70. Il a dit la guerre des étoiles, c'est pas de la vraie SF et c'est pour les cons. Donc les gens ils sont allés voir la guerre des étoiles, et puis ils ont dit alors la SF, la vraie SF, ça doit être chiant. Et en effet. Voilà, enfin, il y a quand même des choses assez notables. Il faut aussi, enfin, pas y poutre, il faut reconnaître notre discours, notre jargon, nos attendus, nos propres préjugés, etc.
Je me demandais s'il n'est pas une question de snobisme aussi. Parce que je vois qu'il y a un certain nombre d'auteurs, entre guillemets, littérature blanche, qui publient des trucs qui sont carrément dans de la SF. Dans le temps, j'ai lu un bouquin d'Athalie, le titre ne revient pas, mais qui parlait justement d'une espèce de revisiter un peu le mythe de David et Bethsabée. Comme ça, c'était une histoire de. La vie éternelle, je crois que ça s'appelle. Mais c'est complètement de la fantaisie, quoi. C'est. Voilà. Il y avait aussi un autre truc, je ne sais plus non plus, le premier jour après moi, où ça parlait de l'histoire d'un mec qui est mort et qui. Son fantôme observe autour de lui la vie qui se passe. Alors c'est légèrement fantastique parce qu'il y a un fantôme, quoi. Et sinon, c'est très entré dans le.
Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Récemment, vous avez David Essay, de Muriel Barbery, il y a eu Global Iliade de Ruffin. Welbeck, de manière. Dieu sait s'il connaît bien aussi cette littérature-là, fait de la SF. C'est peut-être aussi une question d'étiquette.
Hein. Oui, bah, pas mal aussi, mais aussi, je me demande si ces auteurs-là, ils ne sont pas peut-être honte d'écrire quelque chose qui relève de l'imaginaire, mais ça reste publié chez les grands éditeurs de littérature blanche.
Là aussi, moi, j'ai envie de dire le contraire.
Il n'y a pas d'étiquette science-fiction dessus. Ouais.
Moi, je pense qu'ils n'en ont pas honte, au contraire, on peut les remercier.
Parce que
il se peut très bien que chez Gallimu, chez les autres, on va dire tu veux vraiment faire un truc de SF après le concours et les mecs ont dit oui, je veux. Ben non, mais c'est une question de marketing, c'est quand vous êtes. Enfin voilà, c'est la littérature générale, ça n'existe pas. Hein. C'est ce qui n'est pas une littérature de genre. Enfin, c'est ça qu'il a fait. Et dès qu'un bouquin devient un classique, il sort du genre. Enfin voilà. 1984, c'est plus un bouquin de science-fiction depuis très longtemps.
Voilà, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les grandes maisons qui font de la littérature blanche et tout ça refusent des jeunes auteurs
Mais elles ne refusent pas, elles les publient. Elles les publient, elles
font des collections.
Ben non. Folio science-fiction, c'est pas de la jeunesse.
Les choses évoluent en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis bien fait en mettre ça en débordement. On a 20 ans. Alors, la maison Gallimard, c'est la maison, c'est qu'il y a aussi le Noël avec cette fameuse collection
de Bordeaux,
du futur qui a publié Frapp, Pilier, Ressan, ce que vous voulez.
Ouais,
et je me demandais, mais est-ce qu'il est possible de faire chez Folio une collection de SF, après tout aussi, Jason Bernard, etc. Alors, ça avait été non, absolument pas. Mais je veux dire, bon, bah, 2000, Folio SF apparaît. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait poser la question, d'ailleurs, j'allais aussi poser, est-ce que la Gallimard, la Blanche, ou du monde entier, la collection publie les littératures étrangères, pourrait pas faire de la SF? La réponse est non, mais on en reparle dans 10 ans. Qui est le premier éditeur de Kim en France? Vous savez? Tu sais, toi, Stéphane? Histoire marrante. Tu connais? Non? Premier éditeur de Stephen King en France, vous savez qui c'est? C'est Gallimard. C'est Gary qui est sorti dans la collection du monde entier, où ça s'est alors viandé absolument, ça n'a eu aucun succès, du coup on a laissé partir, après il a dû faire Spirit Assist, ça a été récupéré par la Manisha comme vous le savez, mais c'est Gallimard. Et ils ont pas, je pense probablement, ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient. De même que la toute première collection de littérature en France consacrée à ce type de littérature, c'est Gallimard Hachette, avec des textes qui a été traduit par Boris Vian. Un des tout premiers articles consacrés à cette littérature en France, c'est dans la NRF, c'est co-signé par Boris Vian sur l'apparition d'un nouveau genre suite à la traduction d'un ouvrage de Van Gogh. J'ai envie de vous dire, les choses évoluent, elles évoluent en permanence, et d'une certaine façon, c'est pas très grave. À un moment donné, ce qui compte, c'est des textes, et ce qui va rester, c'est des textes. Alors, nous, on veut défendre ça parce qu'on a des idées qu'on veut défendre. On pense qu'effectivement, l'imaginaire, cette capacité à faire bouger les lignes et aller plus loin, à voir autre chose, bah, c'est important et on peut tous en bénéficier. Mais je dirais, subir un certain ostracisme, j'en vis pas, j'ai pas à en vivre, donc j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je peux comprendre, ça gêne les auteurs qui pourraient se dire, peut-être que s'il n'y avait pas cette mauvaise place autour de moi, je vendrais deux fois plus, donc ma vie serait un peu plus ou moins difficile. Mais dans le fond, est-ce que c'est si grave?
David, juste pour, par rapport à ce que tu disais là, on parle de décision, de grande décision d'éditeur. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire sur la décision de Gallimard dans les années 80 de se lancer dans le jeu?
Ah oui, avec la mémoire, tout ça.
Mais ils ont eu raison puisque ça a eu un gros succès.
Et dont vous êtes le héros.
Là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête de Gallimard pour dire, bah, tiens, allez, on fait du jeu, personne. En tant qu'éditeur.
Alors, si mes souvenirs sont bons, ils l'ont fait sous la marque Folio Junior.
Ouais.
Donc, c'est en jeunesse.
Ouais.
Donc, c'est acceptable.
C'est jeunesse.
Deuxièmement, on a beau être Gallimard, on peut avoir une intelligence commerciale et se dire, il y a un truc à faire avec ça. C'est pour ça que je veux pas grossir le truc, mais. Passer dans une caricature inverse, mais je trouve qu'on se crée des ennemis et on regarde derrière nous en permanence, alors que c'est pas si vrai. Il y a de l'imaginaire partout. Enfin, je savais pas pour Carrie, c'est génial. C'est vraiment temps. C'est-à-dire que avant même d'être repéré ou d'être placé dans une collection de genre, un livre existe tout bonnement et il y a des multi-exploitations transversales. Il y a des bouquins, je me souviens, Le Clan des Autoris, par exemple, qui était en jeunesse et en adulte. Voilà. Et à ce moment-là, quand on prend le bouquin adulte, on ne se dit pas « Ah oui, bon, c'est un ostracisme, etc. » Ben non, il est en adulte aussi. Donc c'est quand même, tout ça est quand même beaucoup plus mitigé, beaucoup plus... voilà.
Ça n'empêche qu'en jeunesse, tu l'aurais peut-être pas pris. Et ça n'empêche que des très très bons textes, des années 20-30, si je pense aux Montagnes Hallucinées, à Sonic Stories... 33, si la mémoire est bonne, à mon avis, les lecteurs qui tombent dessus par hasard se disent « Oh là là, la couverture, elle est nulle, le papier, il est nul, ce texte doit être nul. »
Oui, oui, mais alors là, je suis d'accord, mais là, c'est une autre question. C'est une question, tu dis la couverture, etc. Parce que de l'autre côté, Lovecraft est le premier auteur de fantastique moderne, enfin contemporain, célébré par l'université avec un cahier de Lerne en 69.
La couverture est magnifique. Hein.
Tu vois, donc ça veut dire que...
1933, machin, elle est magnifique.
Ouais.
Avec le recul.
Non, mais elle est magnifique.
Ouais.
Elle est considérée comme snitch et moche.
Oui, mais
comme les marques dans les années 60.
J'ai acheté par des gens qui adorent ce genre-là.
C'est ça, l'étiquetage.
Ouais,
mais c'est une excellente question et je te remercie parce que c'est hyper intéressant. Parce que c'est un bouquin.
Célébré maintenant comme un bouquin. À l'époque, c'était considéré comme
un bouquin. Exactement, c'est ma décision. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas créé une collection Brajan Thriller à ce moment-là. Je l'aurais fichu en SF direct sans poser la question. Mais comme on venait de créer une collection de Brajan Thriller, je me suis dit,
C'est avant tout un survival, c'est Robinson Crusoe sur Mars, donc en fait l'aspect SF, ok, il y a des mecs sur Mars, c'est un tout petit peu science-fictif, mais au-delà, il n'y a que ça, donc c'est vraiment que la situation. Mais quand on le lit comme un survival thriller, donc là. Et deuxièmement, les Américains, c'est intéressant sur ce bouquin, l'éditeur américain, Julian Clavier, a communiqué sur ce livre en disant que c'était un thriller, mais l'a placé au rayon SF aux États-Unis. Je trouve que c'est une distinction très intéressante. Qu'est-ce qu'on dit sur un livre? Où est-ce qu'on le met pour que les gens l'achètent? Et ça tombe bien parce que avant-hier, j'étais à la Fox, parce que c'est le prochain film de Ridley Scott qui sort le 25 novembre, aux États-Unis et le 2 décembre en France. Et donc, pour discuter du cross-marketing, de ce qu'on allait faire ensemble. Et donc, ils ont leur PowerPoint de présentation à l'international du film, Seul sur Mars. Et genre, Adventure, celui-là. Sur l'image, enfin Matt Damon, il est dans un scaphandre, hein. il n'y a pas. Bon. Donc, je trouve que c'est un très très bon exemple, c'est-à-dire que le discours sur une œuvre, son marketing, la façon dont c'est présenté, non seulement fait bouger les lignes, comme tu dis, aussi à sa façon, le contenu, c'est le contenu, enfin, il est parti aux universitaires, etc., de définir à quel genre ça appartient, mais dans la perception, dans le public, dans le positionnement, dans les librairies, dans les bibliothèques, etc. C'est une toute autre question. Et c'est pas seulement, là encore, l'épicier qui parle, parce que moi, mon but, c'est de vendre les bouquins des auteurs. C'est aussi ça qui définit ou redéfinit la perception des gens par le grand public.
Il va falloir qu'on arrête parce qu'on a une autre conférence qui va arriver. Et quand on est éditeur ou amateur de littérature, en tout cas qu'on est amené à les défendre, on est obligé de travailler avec une chose qui s'appelle, une entité qui s'appelle la librairie. La librairie, il y a des rayons, ça se crée, ça disparaît, ça grandit, ça rétrécit, etc. Je dirais, tu me diras comment toi tu travailles, mais enfin, on a toujours cette envie, quand on fait ce type de littérature, à la fois d'attirer les gens vers notre rayon, et aussi d'aller vers eux, c'est-à-dire d'en sortir, à la fois, encore une fois, promouvoir notre rayon, faire en sorte qu'il grandisse et amener le maximum de gens vers ce rayon, et d'un autre côté, se dire, bah, effectivement, si je le mets en SF, je vais en mettre en place 3000, si je le mets en thriller, je vais en mettre en place 6000, je toucherai un plus grand nombre, et au fond, encore une fois, ce qui compte, c'est le livre, c'est pas forcément l'étiquette. Parmi les exemples qu'on a cités, là, de livres représentés comme de la SF ou pas, il y a Bernard Werber que vous connaissez tous, de mémoire, que je peux me tromper, je crois pas, mais je crois pas qu'il ait jamais eu écrit SF sur aucun bouquin de Bernard Werber. Hein.
Ah ben non, Albin Michel lui a dit qu'il fallait pas le...
Albin Michel lui a dit, vous la fermez, hein. Il dit pas que c'est de la SF, parce que sinon on va rien vendre du tout. Ceci dit, il est catégorisé au rayon SF en librairie, et donc forcément, comme Chatham, comme King, etc., contribue énormément aux ventes et aux parts de marché de la science-fiction dans ce pays, alors même qu'il n'y a pas marqué SF dessus. Donc ça veut dire que l'éditeur a quand même décidé de le mettre en SF.
Ou GFK.
Bah là c'est l'éditeur qui choisit, enfin, c'est l'éditeur qui dit qui register, comment on appelle ça. Bref, qui définit la nomenclature de son.
Il va falloir qu'on arrête, je suis désolé, parce qu'on avait quand même Nicolas qui est un grand auteur, illustrateur, transversal.
Non, c'est passionnant.
Juste une chose, joins-toi à nous, viens. Viens avec nous. Il y a peut-être des questions, enfin peut-être vous voulez rebondir sur certains aspects, sur certaines choses, certains points à aborder lors de la conversation.
Oui, mais j'ai juste un point, c'est quoi ? Vous n'avez pas parlé du lecteur dans tout ça, parce que l'étiquette, elle joue aussi sur le lecteur, c'est-à-dire que un lecteur...
Il n'y a pas de lecteur.
le lecteur est quantité négligeable. Non,
surtout chez moi.
C'est vous.
D'ailleurs, dans tout le débat qu'on vient d'avoir là sur les étiquettes sur les livres, il y a beaucoup de lecteurs de chez Gallimard qui iront lire un livre. Je pense par exemple, là, c'est pas un livre Gallimard, mais Antoine Volodine vient d'avoir un prix littéraire avec un roman qui est un roman de science-fiction, on le veuille ou non. Il va être lu par un public qui ne lit que de la blanche traditionnellement et qui va jouer son Monsieur Jourdain en lisant de la science-fiction sans le savoir. Ça a été le cas pour d'autres, ça a été le cas pour Carole Martinez qui a eu le concours des lycéens pour un roman qui est un roman fantastique, même si c'est un fait très historique à la base.
Ce sont pour Robert Merle, c'était
les lecteurs qui sont des lecteurs de littérature générale ne liraient pas s'ils étaient catégorisés littérature de genre. Et à l'inverse,
ce sont aussi des livres vers qui les lecteurs qui ne lisent quasiment que des littératures de genre ne vont que difficilement parce qu'ils sont catégorisés littérature blanche. Donc le lecteur a aussi une part de responsabilité dans ce qui peut se passer.
Bien sûr, mais enfin, plaisanter en disant qu'il est négligeable, c'est que le lecteur, il est quand même celui qui reçoit le résultat de toutes ces décisions de libraire, parce qu'il y a aussi des décisions de libraire. Tu me parlais de celle sur Mars, moi j'ai marqué thriller dessus, et plein de libraires l'ont foutu en science-fiction. Ouais. Ils n'ont rien à foutre de ce qu'il y a marqué. Bon. Oui, mais ton exemple, là encore, je retournerai, parce que je pense qu'il y a des ouvrages qui flirtent largement, en tout cas dont l'ambition littéraire pourrait les faire considérer comme de la littérature générale plutôt qu'un roman de genre, qui sont publiés dans des collections de genre. Par exemple, moi, Graham Joyce, pendant très longtemps, Joyce est un titre qui aurait dû, et qui alors aux États-Unis, éphémèrement, a été publié en littérature générale. Duvic, chez Terreur, l'avait publié en Terreur. Moi, je l'ai publié chez Barjon. Pourquoi ? Parce qu'on adore cet auteur et qu'on se dit, bah, il vaut mieux le publier que pas le publier. Et, entre guillemets, manque de bol, il va être chez nous. Bon. Mais ça veut dire aussi qu'un auteur qui aurait dû être en littérature générale a été et est lu par des amateurs de genre. Et qui ont beaucoup de chance parce que c'est un merveilleux auteur et des merveilleux bouquins. Donc, en fait, ça, tu vois, ça marche aussi dans les deux sens.
Oui, mais par exemple, pour prendre un auteur qui est présent ce week-end à Montrouge, je me rendais Sokoro, Royaume devant être colère, dès qu'on commence à dire qu'il y a un tout petit peu de magie, et pourtant il n'y en a pas énormément à l'intérieur, c'est pas vraiment une dominante de son roman et c'est pas un fil conducteur, tout de suite on sent des réticences de la part des gens qui sont avant tout des lecteurs de romans historiques et qui disent oui, mais. S'il y a un tout petit peu de magie dedans, c'est plus un roman historique.
Ben oui, c'est un roman historique. C'est un discriminant, oui, bien sûr. Ouais. Mais, enfin.
Donc c'est aussi un travail qu'on a à faire au niveau éducatif et culturel. J'entendais les différenciations, je pense qu'elles sont là aussi au niveau éducatif en France, où effectivement, dans la manière dont on éduque le lectorat, on a déjà mis à part complètement les genres.
Oui, c'est vrai, mais là aussi j'ai un
point de vue inverse.
Car moi je suis un mec qui a découvert la science-fiction à l'école avec New York de Vulle et que j'édite maintenant, et c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées. Mais d'un autre côté, les parts de marché des gens de l'imaginaire comparées à leur représentation à l'école, pardon pour ceux qui m'ont entendu dire ça 50 fois, dans les programmes où tu as un peu de SF, Vrenel 451, Tournée Partielle, beaucoup de fantastiques, le Horla, Maupassant, etc., et pas du tout de fantasy.
Mais Maupassant n'est pas présenté comme un auteur fantastique.
Et ensuite pour le Horla, c'est quand même un classique.
Ce que je veux dire,
ou Hoffman, tu vois.
À l'école, il est présenté comme un classique, il n'est pas présenté comme un roman fantastique.
Alors là, c'est fantastique quand même.
Résultat des courses, je finis mon petit parabole. Tu regardes les ventes en librairie, au rayon de l'imaginaire, et tu vois que 70% c'est la fantasy dont on n'a jamais parlé à l'école. Ensuite, c'est les 20% de SF et la fantasy. Et la fantastique, c'est quasiment la plus. Résultat des courses, tout ce qu'on t'a appris à aimer, on est censé t'avoir appris à aimer à l'école, tu ne le relis plus jamais après. Et par contre, et c'est ça, c'est l'une des raisons pourquoi on aime tant la fantasy avec les banques toujours, c'est que la fantasy est restée quelque chose de subversif. La fantasy, c'est le bouquin que les élèves lisent en cachette, tu vois, illicitement. Moi, je me souviens de quand je bossais avec Colin chez Mnemos, Fabrice Colin, sa sœur, qui était au lycée Louis Grand. Dans sa classe, il y a un mec qui s'était fait pécho en train de lire un bouquin de Colin, toi, pendant le cours. Sublime. Tu parles de reconnaissance. Sublime. Se faire engueuler par le prof, toi. Tom Clegg, mon éditeur SF, il lisait Le Hobbit en cachette, toi, quand il avait 9 ans à l'école. Donc, l'éducation, moi, mon monsieur,
c'est pas la même chose.
Concernant l'éducation, j'ai fait une intervention scolaire sur une classe de seconde, je crois. Et déjà, j'étais traumatisé à l'idée qu'ils lisent mon livre, parce qu'en général, quand on fait lire ton livre à un gamin, il ne l'aime pas. C'est normal, parce que c'est l'école. Donc bon, je m'installe, je me dis, bon, c'est quand même sympa, etc. Et c'était donc. C'est un livre qui. C'est La maîtresse de guerre, et à la base, c'est une invasion d'un royaume par un autre royaume. Et les mecs qui envahissent, au bien qu'on les reconnaisse, ils ont des écharpes rouges. Et la prof dit, bah, c'est tombé qu'on est l'auteur, parce que du coup, on va vous expliquer que cette invasion, là, les écharpes rouges, c'est une allégorie du communisme, c'est une image de l'URSS, c'est l'impérialisme soviétique. J'étais comme de ronflant, je lui dis, mais non, pas du tout, non, c'est pas dit. Puis c'est rouge parce que, un, je trouvais ça joli, deux, ça se voit loin, parce qu'en bleu, dans le désert, c'est un peu chiant. Et j'ai passé mon message justement un peu subversif aux autres gamins en disant, mais écoutez, on vous fait lire les auteurs en disant que si le mec a appelé son héroïne Marie, c'est la pureté originelle, ben non, c'est juste qu'il voulait l'appeler Marie en fait. Sa grand-mère s'appelle Marie, il voulait lui faire plaisir. Donc, ils ont réussi à dégoûter les gamins d'un bouquin de fantasy qui est assez accessible, assez facile et tout, en leur disant que c'est une allégorie du communisme. c'est un truc horrible. Donc moi, j'ai entendu ça à l'âge qu'ils ont, ça m'a effectivement fait terriblement chier de lire mon livre, parce que ben, voilà, l'impérialisme soviétique, etc., etc., tel personnage, nous, on sent Staline, ou ils ont vu Staline, il n'y a pas de moustache. Donc c'est vraiment très très spécial. C'est une approche, en fait, de l'éducation qui, quelque part, doit de toute façon brider le gamin et l'ennuyer d'une façon ou d'une autre.
Je suis désolé, il va falloir qu'on arrête, mais tout ça me fait penser à une phrase de Julien Gracq dans En lisant, en écrivant. C'est un ouvrage consacré aux critiques littéraires. Et il parle des critiques et il dit ces gens qui, parce qu'ils ont inventé une clé, n'ont de cesse de transformer votre œuvre en serrure.
C'est un peu ça.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci.